La bibliothèque orbitale, épisode 15. Résumé de l'épisode précédent, la situation est chaude et ensoleillée, et même avec des pointes à 35 degrés sur le pourtour méditerranéen. Parti en vacances il y a 2 semaines avec armes et bagages, Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, accompagné de sa femme Solange et de son fils Kevin, n'a toujours pas atteint la Côte d'Azur où il avait prévu de séjourner. La faute à un trafic quelque peu encombré, lui-même dû à une apocalypse nucléaire qui s'est abattue sans prévenir sur la route des vacances. Après avoir épuisé toutes les réserves de nourriture disponibles sur l'aire d'autoroute, où ils avaient trouvé refuge, la famille Pitou s'est résolue à reprendre la route. Histoire de s'assurer un maximum de sécurité, Pitou a apporté quelques modifications au break familial. Carrosserie blindée, mitrailleuse en tourelle, lance-flammes à l'avant, obusier sur les côtés. Quant à la caravane, c'est devenu un véritable bunker sur roues, capable de résister à un tir de missile, tout en conservant à l'intérieur tout le confort moderne qu'apprécie tant Solange Pitou. Ainsi équipés, leur véhicule n'a guère eu de mal à résister aux assauts des innombrables vacanciers mutants qui pique-niquent sur la bande d'arrêt d'urgence, aisément repérables grâce aux gilets de sécurité jaune fluo qu'ils portent, et qui s'amusent à leur jeter œufs durs, salades et autres sandwichs au jambon radioactif. Et c'est ainsi que la petite famille a également pu franchir sans mal et sans payer le péage de Mâcon Nord. Le grand nombre de voitures abandonnées en plein milieu de l'autoroute ne permet pas de rouler très vite, mais Pitou garde bon espoir d'atteindre la Côte d'Azur avant la fin de la semaine, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur découvre qu'en laissant macérer pendant plusieurs jours une vieille VHS de film post-apocalyptique italien, dans un mélange de rhum et de débouchévier, on obtient une mixture certes infecte, mais finalement, après 3-4 verres, on fait plus trop attention au goût. La mode de la science-fiction post-apocalyptique en Italie a duré à peine 3 ans, de 82 à 84, dans la foulée du succès mondial de Mad Max 2. Mais durant cette brève période, le genre est presque devenu un passage obligé pour les réalisateurs de séries B italiens. On a déjà évoqué en long et en large les cas de Enzo Castellari et de Sergio Martino, à l'origine des films les plus célèbres du genre, mais ils sont loin d'être les seuls à s'y être frottés. Il y a par exemple Aristide Massacesi, alias Alexandre Borski, alias David Hills, alias John Bird, alias Steven Benson, alias Kevin Mancuso, alias Joe D'Amato. Joe D'Amato, c'est près de 200 films, du début des années 70 à la fin des années 90. Alors certes, plus de la moitié de ses films sont des pornos, genre auquel il s'est consacré presque exclusivement dans les dernières années de sa vie, mais il n'en a pas moins signé un nombre conséquent de films, dans tous les genres, avec une prédilection pour l'érotisme. Les esthètes rétro se souviennent sans doute de la série des Black Emmanuel, avec un seul M et surtout avec la belle Laura Gemser. Plus proche des genres qui nous intéressent, Joe D'Amato a réalisé quelques œuvres marquantes, en particulier dans le registre de l'horreur. Deux films viennent tout de suite à l'esprit, Anthropophagus et Blue Holocaust. Sorti en 1980 avec George Eastman dans le rôle d'un cannibale qui sème la terreur sur une petite île grecque, Anthropophagus est certes un film très médiocre, mais il contient deux scènes qui ont marqué les amateurs d'horreur de l'époque. L'une dans laquelle Eastman attaque une femme enceinte avant de dévorer le bébé qu'elle porte, l'autre où le même Eastman, blessé à mort, se met à bouffer ses propres intestins. Bon appétit. Ceci dit, ces scènes sont tellement mal foutues qu'elles en finissent par être plutôt rigolotes. En revanche, 30 ans après sa sortie, Blue Holocaust n'a rien perdu de sa violence. Il s'agit d'une histoire d'amour nécrophile qui baigne en permanence dans une ambiance lourde et malsaine et qui aligne quelques scènes gore franchement éprouvantes. Mais pour peu que vous ayez l'estomac solide, je vous conseille vivement ce film. Et donc, au début des années 80, entre deux bandes érotiques, Joe D'Amato va un peu tâter des genres à la mode, l'heroic fantasy avec Hathor l'Invincible et la science-fiction avec Le Gladiateur du Futur et 2020 Texas Gladiator. Gladiateur du futur, datant de 1983, se déroule dans un univers futuriste ultra-violent où des chasses à l'homme mortels sont organisées et constituent des spectacles télévisés particulièrement populaires. Une idée qui rappelle évidemment Le Prix du danger, le film d'Yves Boisset, adapté de la nouvelle de Robert Sheckley, sorti dans les salles quelques mois plus tôt. La première demi-heure du film voit donc le blondinet barbu Al Cleaver poursuivi par une petite troupe de tueurs, parmi lesquels on reconnaîtra George Eastman, toujours dans tous les bons coups. Le tout est filmé avec une efficacité certaine, dans une ambiance nocturne et brumeuse qui fait son petit effet. La suite est, hélas, moins enthousiasmante. Le personnage qu'interprète Al Cleaver réunit une petite bande de mercenaires pour escorter un groupe de mutants jusqu'à un endroit où ils ne seront plus persécutés par les autorités. S'ensuit une série de péripéties plus ou moins couillonnes, plutôt plus, à base de fusillades pétaradantes et de cascades motorisées, dans un univers dévasté peuplé de mutants, couvert de poils, de plumes ou d'écailles, selon les goûts de chacun. Peut-être que certains d'entre vous trouveront un air familier à la leader des mutants, interprétée par une certaine Moira Chen. En fait, derrière ce pseudonyme se dissimule Laura Gemser, reine de l'érotisme italien de l'époque, en particulier grâce à la série des Black Emmanuel que j'évoquais tout à l'heure. Fait quasi unique dans l'histoire du cinéma mondial, la belle indonésienne apparaît dans ce film entièrement habillée, et même vêtue d'un fort peu sexy sac à patates à manches longues, accompagnée d'une coiffe hybride mi-turban mi-chapka du plus vilain effet. Nombreux d'érotomanes à l'époque ont d'ailleurs préféré s'énucler que subir plus longtemps cette vision d'horreur. Joe D'Amato remet le couvert un an plus tard avec 2020 Texas Gladiators. Encore une histoire de mercenaires qui cette fois viennent en aide à de braves travailleurs harcelés par de vilains bikers menés par un vieux chauve en uniforme nazi. La première scène du film se coupe pas mal, une séquence au cours de laquelle un prêtre se fait crucifier et une nonne violée pendant que sa consœur préfère se trancher la gorge avec un tesson de verre plutôt que de connaître le même sort. Mais très vite, le réalisateur lève le pied et se lance dans un récit plan-plan. Comme Enzo Castellari pour Les Nouveaux Barbares, Joe D'Amato fait de son histoire post-apocalyptique un western et passe en revue quelques-unes des scènes obligées du genre, l'attaque du fort, la bagarre dans le saloon, et même une authentique tribu d'Indiens qui débarque sans prévenir au bout d'une heure de film. Malheureusement, ça ne suffit pas à sortir 2020 Texas Gladiators de la médiocrité dans laquelle il patauge d'un bout à l'autre. La faute à une réalisation mollassonne, une pauvreté de moyens évidente et des acteurs indigents. Bref, c'est comme le Gladiateur du futur, mais en pire. Autant dire que si dans la filmographie pléthorique de Joe D'Amato, certains titres méritent d'être découverts ou redécouverts, ces deux-là n'en font pas partie. Un réalisateur qui s'en sort nettement mieux dans le genre, c'est Ruggero Deodato. Faut-il le rappeler, Deodato s'est surtout fait remarquer à la fin des années 70 avec deux films qui ont lancé la mode du film de cannibale, Le Dernier Monde Cannibale en 77 et Cannibal Holocaust 3 ans plus tard. En 83, il met en boîte l'un des films les plus crétins et paradoxalement l'un des plus réussis des films de SF post-apocalyptique italien, Les Prédateurs du Futur. Nous sommes quelques années dans le futur, comprenez en 1995, et au large de la Floride, Une opération pour récupérer un sous-marin nucléaire soviétique va avoir pour effet inattendu de ramener à la surface des eaux l'île de l'Atlantide. Une réapparition qui va entraîner une explosion de violence dans les rues de Miami, où des hurluberlus peinturlurés se mettent à massacrer tout ce qui bouge. Bon, alors soyons clairs, le scénario des Prédateurs du futur relève du grand n'importe quoi. Il est d'ailleurs fortement conseillé de ne se poser aucune question sur l'intrigue, les motivations des personnages, ou même sur l'enchaînement de la plupart des séquences. Ces réserves faites, il faut bien constater que Les Prédateurs du futur est un spectacle des plus divertissants. 90 minutes d'action non-stop, au cours desquelles un petit groupe de survivants est harcelé par une horde de barbares. Ça explose dans tous les coins de l'écran, le sang gicle à profusion et des corps désarticulés valdinguent dans tous les sens. Tout l'argent économisé sur le scénario a été habilement investi dans les effets pyrotechniques et, de ce côté, Les Prédateurs du futur a nettement plus de gueule que la plupart de ses confrères. En plus, on a le plaisir de retrouver ici quelques bons acteurs, au premier rang desquels Christopher Conley, George Hilton ou Ivan Rassimov, suffisamment bons en tout cas pour donner un peu de personnalité et d'épaisseur à des personnages par ailleurs totalement stéréotypés. Et puis enfin, et peut-être même surtout, il y a ces fameux barbares, au look absolument délirant, exhibant une magnifique collection de tatouages et de scarifications des plus variés, et circulant à bord de véhicules customisés à leur image. Visuellement, le résultat est parfait, et chacune de leurs apparitions, dans un silence de mort, fait son petit effet. De ce point de vue, les Prédateurs du futur pourraient presque rivaliser avec Mad Max 2. Parmi les incontournables de la série B italienne, il y a évidemment Lucio Fulci, l'un des maîtres de l'horreur transalpine, avec des films comme Frayeur, L'Au-delà ou L'Enfer des zombies. Et lui aussi a fait un détour par la science-fiction en 1984 avec 2072, Les Mercenaires du futur. Comme dans Le Gladiateur du futur de D'Amato, 2072, Les Mercenaires du futur invente les jeux du cirque de demain, diffusés en direct à la télévision, et au cours desquels s'affrontent deux équipes de motards dans des combats sanglants. L'influence du rollerball de Norman Jewison est évidemment perceptible, d'autant plus que l'acteur principal, Jared Martin, a quelques airs de famille avec James Caan. Le casting du film n'est d'ailleurs pas trop mal, puisqu'on y retrouve Claudio Cassinelli et Fred Williamson. Sauf que l'un comme l'autre se sont vus confier des rôles à ce point inexistants que, franchement, c'était pas la peine de les déranger pour si peu. Le fait est qu'il n'y a strictement rien à sauver de 2072, Les Mercenaires du futur. Les scènes dans l'arène sont merdiques au possible. Visiblement, filmer une bande d'idiots à moto qui se foutent sur la tronche ne passionne pas vraiment Lucio Fulci, qui bâcle sans scrupule. Le reste du film, tournant autour du meurtre de l'épouse du héros et d'un complot médiatique, donne lieu à d'interminables dialogues affreusement bavards dont tout le monde se fout, à commencer par les acteurs. En fait, si 2072, Les Mercenaires du futur, n'est pas le plus nul des films de SF post-apocalyptique italien tournés à l'époque, il a en revanche le triste privilège d'être le plus chiant. Terminons notre sélection du jour par le vétéran de la SF italienne, Anthony Dawson, alias Antonio Margheriti, qui a débuté dans les années 60 avec une série de films de science-fiction à petit budget, parmi lesquels La planète des hommes perdus ou Le vainqueur de l'espace. Après avoir touché à peu près tous les genres par la suite, il revient à la science-fiction en 1983 avec Yor, le chasseur du futur, adapté d'une bande dessinée argentine. Dans ce film, le futur a cette fois de furieux airs pseudo-préhistoriques, puisque les humains y sont revenus à l'état sauvage et se battent contre des dinosaures. En ces temps lointains, la mode est désormais au pagne en peau de castor pour les hommes et au maillot de bain de pièces en écorce de palmier pour les femmes. Parmi ces sauvages se trouve Yor, blondinet musculeux dont on va suivre les aventures, et interprété par Red Brown, acteur américain dont le principal titre de gloire est d'avoir revêtu l'uniforme de Captain America à la fin des années 70 dans une série de téléfilms particulièrement merdiques. Il faut attendre une bonne heure pour que le film bascule vraiment dans la science-fiction et que l'on découvre une civilisation qui a survécu à l'apocalypse et détient les secrets de la technologie d'autrefois. Mais évidemment, cette société est dirigée par un tyran sanguinaire, interprété par le pauvre John Steiner, contraint de jouer les Dark Vador au rabais pour payer ses impôts. Yor, le chasseur du futur, constitue ainsi l'improbable rencontre entre la guerre des étoiles et la guerre du feu. Vu que le film est plutôt rythmé, que certains effets spéciaux sont assez réussis, en particulier l'apparition d'un tricératops étonnamment bien animé, et que les Françaises Carole André et Corinne Cléry portent avec élégance le bikini, ça se laisse presque regarder. Mais là encore, il est préférable au préalable de mettre son cerveau en mode basse consommation avant de tenter l'expérience. Bref, aucun de ces films n'a marqué l'histoire du cinéma italien, ni même celle de leurs réalisateurs, pourtant loin d'être des manches. Mais si de bons réalisateurs ne parviennent pas à faire de bons films, que dire de ceux tournés par d'authentiques tâcherons ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans le prochain épisode.